Bonjour à tous, merci d'être aussi nombreux en cette fin de festival pour une conférence dédiée à Pokémon Go. Tout d'abord, Pokémon Go est un jeu assez récent qui date de septembre 2016, si ma mémoire est exacte, en France en tout cas. Pour participer au débat et aux échanges, à côté de moi, nous avons David Bergier-Cotte.
Et bonjour.
Olivier Paquet. David Bergier-Cotte est game designer, a participé à de nombreuses game jams dans sa jeune carrière. Et à côté de lui, nous avons Olivier Paquet, qui est auteur de science-fiction, qui a gagné le prix Joël Champetier il y a quelques jours, un prix remis durant le festival par des auteurs et des éditeurs québécois pour la meilleure nouvelle francophone hors Québec, et qui est aussi très grand joueur et très grand technophile. Et nous allons discuter tout autour de Pokémon Go. Je vais d'abord me tourner vers mes invités. C'est quoi Pokémon Go pour les gens qui ne connaissent pas? Bon, vous devez tous connaître, mais c'est toujours très bien de revenir sur ce que c'est que Pokémon Go.
Pokémon Go, c'est un jeu de Niantic qui est sorti l'été dernier et qui a fait pas mal le buzz avec plus de 45 millions d'utilisateurs fin juillet. Là, ça a baissé depuis. C'était le jeu de l'été. Le principe est simple. La carte du jeu, c'est la carte du monde réel et on va pouvoir se déplacer réellement à des endroits de la ville pour récupérer les petites créatures Pokémon. Et c'est aussi un bon moyen de socialiser avec ses potes, faire des sorties tout en récupérant des Pokémon. Et voilà, déjà c'est le principe de base du jeu.
Et donc en ce moment, vu qu'on ne se déplace pas, autour de nous il y a un Miaouss et un Osslet.
Tu peux montrer ton écran au cas où, puisqu'on n'a pas d'image. On est désolé, ah. On voulait vous montrer quelques images.
Mais si, il y a un mini Draco qui est pas loin aussi. Mais par contre, je ne sais pas où, puisque les radars ont été bannis du jeu. Donc voilà, il fut un temps, il y a encore 15 jours, il y avait des radars pour pouvoir chercher, mais là, ça a été banni. Donc voilà, c'était juste une information. Si vous voulez sortir, il y a un mini Draco. Bon, donc ce qui est intéressant dans Pokémon Go, c'est effectivement que ça part d'un jeu et Nintendo, et ça a été ensuite il y a une série d'animations qui en est sortie. Et ce qui était important là-bas, c'est que on pouvait trouver des, donc l'idée du jeu et de la série, c'est on pouvait trouver des Pokémon partout et qu'il fallait il y a une mentalité de collectionneur. Et donc l'idée avec le téléphone, on peut avoir des Pokémon partout. On peut refaire ce que faisait le personnage de Sacha dans la série télévisée, aller se balader et rencontrer et trouver des Pokémon et les collectionner. Donc on réussit à traduire avec nos machines, avec les téléphones, un fantasme pour souvent d'enfants ou d'adolescents, de pouvoir se balader dans le monde et trouver des monstres. C'est ça aussi, pourquoi aussi Pokémon Go a fonctionné, alors que le système de jeu qui est à la base de Pokémon Go, qui est donc par la société Niantic, a existé sans Pokémon. C'est-à-dire que le principe de la réalité virtuelle et qu'on se déplace et qu'on découvre des choses, ça a existé avant Pokémon Go, ce n'est pas le premier. Mais pourquoi ça a fonctionné et qu'il y a quelque chose qui s'est développé dans le monde entier, c'est que ça fait appel à une marque importante, enfin ça a été identifié à Pokémon, qui est une marque importante, il y a un attachement finalement du public à cette marque Pokémon, et ça traduit un fantasme fondamental. Donc c'est ça qui, donc le génie finalement du jeu Pokémon Go, c'est de traduire un fantasme d'enfant, un fantasme d'explorateur dans un jeu.
Et du point de vue du game design, est-ce que c'est réellement novateur dans les outils qui sont utilisés?
Je pense pas. Enfin, le vrai, comme le disait Olivier, ce qui a vraiment fait marcher le jeu, c'est la licence Pokémon. C'est le fait que les gens qui regardaient Pokémon ou jouaient à Pokémon dans leur enfance, maintenant peuvent le faire dans la réalité. Et c'est pour ça qu'on voit des gens de 8 à 50 ans qui jouent, qui sortent et qui, et qui collectionne les Pokémon. Donc le jeu en lui-même, il n'est pas si complexe que ça, il n'est pas si intéressant que ça, mais il est assez simple et assez clair pour que tout le monde puisse y jouer sans se prendre la tête, sans que ce soit trop complexe à apprendre. On comprend tout de suite le concept du jeu en quelques minutes de gameplay, et c'est ça qui a fait fonctionner le jeu aussi, même si là ils essayent maintenant de rajouter des features au jeu.
Mais et ce que je dis est important aussi, c'est que comme il n'est pas très précis finalement, c'est que chaque joueur peut l'utiliser à sa façon. Soit on peut, donc il y a des combats d'arène, il y a des choses comme ça, soit on peut diriger son jeu vers le combat, vers le fait de détenir des arènes. Donc ça peut être une manière de jouer, ou on peut simplement essayer de collectionner tous les Pokémon, et ça peut être simplement un jeu sans avoir une pensée de compétition. Voilà.
On peut très bien jouer sans compétition. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a aucun moyen de défaite. On ne peut pas perdre dans le jeu. Du coup, c'est vrai que c'est tout aussi engageant pour le joueur s'il peut continuer à progresser sans avoir la crainte de perdre s'il ne joue pas, ou de perdre s'il tombe face à un dresseur qui serait ennemi. Même s'il y a, dans le jeu des teams, on peut choisir son camp. Mais techniquement, dans le jeu, après, ça se voit au niveau des arènes. Mais si on tombe sur un autre joueur d'une autre team, il va pas nous faire perdre des points, entre guillemets. On peut jamais redescendre.
Hein. Ah oui, non, plus près. Approche ton micro comme ça.
Ok, pardon. Oui, on peut pas. Il y a aucun critère de défaite dans le jeu, ce qui permet d'avoir un sentiment de progression constant, comme dans les jeux social gaming, type Farmville et compagnie, ou même Candy Crush, dans le sens où dans ces jeux-là, on ne peut pas perdre, ce qui fait que le grand public apprécie ce genre de jeu. Parce que c'est plus sympa, du coup, moins compétitif.
Et en termes de réalité augmentée, de nouveauté d'insertion de la réalité augmentée, est-ce qu'il est vraiment novateur, ou est-ce qu'il y a eu déjà des essais en amont, et est-ce qu'il est un digne descendant d'autres jeux qui ont été beaucoup plus précurseurs?
Du coup, en niveau réalité augmentée, en plus, dans Pokémon Go, la réalité augmentée, ça existe depuis quelques temps dans le jeu vidéo. Enfin, ça arrive petit à petit. Il y a déjà eu plein de tests avant Pokémon Go. Mais donc, si on parle vraiment de réalité augmentée, c'est le fait d'afficher des objets par-dessus la réalité. Là, on parle pas du GPS ou du fait de se déplacer, mais vraiment de la technique de je regarde à travers la caméra de mon téléphone et je vois des objets virtuels. Ça, techniquement, en fait, dans Pokémon Go, c'est sympa au début du jeu. Mais on comprend très vite que en fait c'est juste un Pokémon affiché par-dessus, il va même pas reconnaître l'environnement, c'est-à-dire que il sera pas à l'échelle par rapport à si on regarde dans la campagne ou si on est dans une pièce ou etc. Ça n'a pas d'incidence. Et en plus, finalement, on n'arrive pas à jauger la distance. Donc si on veut jouer un petit peu plus professionnel, entre guillemets, un petit peu plus compétitif, et qu'on veut pas gâcher ses Pokéballs, on va désactiver cette réalité augmentée et y jouer comme un jeu classique, mais tout en gardant le côté GPS. Donc en fait, c'est vraiment le côté map du jeu qui est le monde réel. C'est vraiment ça le côté intéressant dans Pokémon Go. La réalité augmentée, c'est plus un gadget qui est sympathique, parce qu'on peut prendre des photos avec son pote qui a un Pikachu sur le bras, ça c'est rigolo. Mais finalement, c'est pas ça le plus important dans Pokémon Go, je pense.
Tout à fait d'accord. C'est-à-dire que, en plus, et c'est vrai que ça rend le lancer de balle parfois totalement aléatoire. Et alors, bon, quand c'est des trucs de base, ça va, mais des fois, c'est très, très énervant. Donc non, ça, c'est quelque chose qu'on enlève très rapidement. Mais ce qui est un peu intéressant, ça, tout à fait d'accord, c'est la carte. On se déplace dans la ville, et c'est pour ça qu'on parlait des... Donc, c'était quoi les radars? C'est-à-dire qu'il y avait des sociétés qui ont conçu des programmes qui permettent de préciser où se trouve le Pokémon. Et donc se dire, c'est à 300 mètres au nord, on voyait la position, et donc on pouvait se déplacer en ville. Parce que l'un des enjeux, et là c'est l'évolution du jeu qui est en jeu, oui. C'est-à-dire que pour l'instant, ça arrivera sans... Parce que normalement, la société Niantic a développé une sorte de radar dans son jeu, mais qui n'est pas à l'échelon mondial. Mais donc, pour l'instant, le problème, c'est que si vous jouez et que vous repérez qu'il y a des Pokémon rares, il faut en gros aller dans un rayon de 300 mètres pour le trouver, sans avoir aucune aide pour vous dire, vous vous rapprochez, vous éloignez, ou faut inférer. Enfin, ça devient un calcul tellement complexe que personne, sauf vraiment le plus grand des compétiteurs, peut le faire de manière efficace. Alors que donc il y a des sociétés qui permettaient comme ça de...
Oui. Parce que du coup, ça devient vraiment en fait comme du farming à l'ancienne, comme dans les jeux Pokémon d'avant, enfin les jeux sur console portable, où on se retrouverait, si on voulait améliorer ses Pokémon ou en capturer d'autres, à devoir marcher sans vraiment réfléchir jusqu'au moment où on tombe sur un Pokémon. Et ça, c'est la partie un peu chiante du jeu, entre guillemets. Et c'est ce qu'ils nous ont fait pour le jeu réel. Donc du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage ce côté je vais errer sans savoir jusqu'au moment où je tombe sur un Pokémon. Mais en même temps, c'est le côté exploration. Et comme c'est un jeu, on n'est pas obligé d'être rivé sur son téléphone. Il y a un mode vibreur, entre guillemets, on le met dans sa poche et ça va vibrer quand ça trouve un Pokémon. Du coup, on peut juste se balader tranquillement dans la ville, faire d'autres choses, de visiter, etc., aller dans les magasins. Et quand ça vibre, on fait « Ah, il y a un Pokémon !» et on ressort. Et par intermittence, du coup, on va jouer au jeu. On va pas être sur le jeu pendant 4 heures d'affilée.
Oui, mais du coup, pour le collectionneur, c'est un peu plus compliqué.
Voilà, d'ailleurs, pour le collectionneur,
quand on est au 40e Roucool qui vibre dans son téléphone alors qu'on est à faire ses courses, au bout d'un moment, on en a quand même un peu assez. Hein.
C'est vrai, oui, tout à fait.
Est-ce que le jeu, justement, n'a pas été un peu détourné sur le farming, avec des techniques, avec des... Est-ce qu'il y a des communautés de joueurs qui ne font que du farming et de la collectionnite aiguë de Pokémon pour progresser le plus rapidement possible?
Je sais qu'il y a déjà des joueurs qui ont terminé toute la collection de Pokémon, qui ont tous les Pokémon disponibles. Du coup, ce qui demande à Niantic d'en faire d'autres, entre guillemets, ou de trouver un nouveau endgame. Le endgame, c'est la partie du jeu quand on arrive vers la fin, qu'on devient très très fort. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est le côté endgame. Et du coup, ça, pour l'instant, on ne sait pas trop dans Pokémon Go. Mais pour déjà trouver tous les Pokémon, faut le faire. Hein. Donc oui, j'imagine qu'il doit y avoir des communautés où les gens se regroupent pour donner des conseils sur la position des Pokémon. Mais comme c'est assez aléatoire, l'apparition des Pokémon, c'est quand même un peu difficile de se donner des tips, enfin, des astuces.
Oui, parce que les Pokémon apparaissent toutes les heures dans certains endroits. Enfin, donc, ils restent que pendant un certain temps. Donc même si, d'ailleurs parfois, quand les radars existaient, on ne se déplaçait pas parce qu'on voyait qu'il nous restait 5 secondes pour faire 100-200 mètres, donc il y a un moment, bon, on s'arrête. Mais si on n'a pas en plus les radars et qu'on se déplace vers un Pokémon et qu'il disparaît au moment, bon, c'est pas fini. En plus, c'est un jeu, alors après on peut être joueur vraiment, un investissement dans le jeu très important. Et donc, effectivement, on va vouloir... Là, j'ai dit, il y a un mini-draco, donc peut-être quelqu'un est sorti pour aller le chercher. Mais la plupart du temps, on continue... Soit on dit, je vais faire du jeu pendant un certain temps, soit on se dit, je vais faire mes courses, ou je vais de tel endroit à tel endroit. Donc, pendant ce moment de vie qui est un peu chiant, du style, je prends le bus, où la vie n'est pas très excitante, je vais faire ça pour me détendre. Il y a un aspect de détente du jeu qui est important, à mon avis.
Oui, tout à fait, oui. L'autre technique, au lieu de errer sans but, c'est de payer entre guillemets les sortes de leurres qui attirent les Pokémon à soi. Et du coup, ça c'est le moyen de monétisation le plus simple parce qu'il faut bien qu'ils gagnent de l'argent aussi pour continuer le jeu. Du coup, on place le leurre sur un point particulier. Les Pokémon arrivent automatiquement, donc on peut rester à cet endroit et espérer qu'il y ait des choses intéressantes qui apparaissent. Et ces choses-là, on peut les récupérer juste en jouant normalement. Mais si on en veut plus, on peut payer. Et d'ailleurs, il y a des musées, etc., qui ont utilisé ça pour attirer les joueurs cette fois-ci. Bah, les Pokémon aussi. Mais du coup, quand on attire les Pokémon, on attire les joueurs avec. Et c'est bien pratique. Enfin, c'est sympathique.
C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'il faut bien. Bon, il y a un élément qui est important, ce qu'on appelle les Pokéstops. C'est-à-dire qu'il y a des endroits marquants. C'est-à-dire que. Parce qu'il faut quand même se représenter pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une carte vide. Avec uniquement les rues, c'est Google Maps et compagnie, et il y aurait des endroits d'arène. Il y a aussi des endroits marquants où on va avoir des Pokéballs, on va avoir des éléments qui permettent de jouer, mais aussi on va se rassembler autour de trucs pour trouver pour prendre. Donc il y a des musées qui ont dit vous avez des Pokéstops, etc. Venez et puis vous voilà. Donc on attire vers des lieux réels parce que ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a un aspect de visite de l'univers. Je vais dire très facilement, moi je suis plutôt quelqu'un qui reste à la maison quand je travaille, parce qu'en tant que quand j'écris, Et donc quand il fait beau, si j'ai le choix entre travailler ou aller dehors pour marcher, je reste travailler. Sauf que cet été, quand on a Pokémon, on se dit, je suis à Lyon, il y a le parc de la Tête d'Or. Il y a un parc, il y a des tas de Pokémon, il y a des tas de Pokéstop, il y a des tas de leurres. Du coup, je vais faire la marche. Et au lieu en plus, il y a un truc supplémentaire, il y a ce qu'on appelle les œufs. C'est-à-dire que les Pokémon, on peut les choper, mais aussi on a des œufs, on peut les faire éclore. Et pour les faire éclore, faut marcher. Donc se dire, je vais aller au parc de la Tête d'Or. Moi, j'habite, à 2 km du parc. Donc au lieu de prendre le bus ou le métro, je vais aller marcher pour aller dans cet endroit-là. Et donc, faudrait que je calcule. J'ai regardé, tiens. Regardez quand même.
Les Pokémon, quand on récupère des œufs, ont une sorte de durée de d'éclosion, enfin de durée de gestation, qui se calcule en kilomètres.
Voilà.
Il faut marcher pour.
Je crois que j'ai fait 350 kilomètres avec les.
Ah ouais, quand même.
Mais Pokéstop, comment ils sont générés ? Enfin, au-delà du facteur mercantile de Niantic de dire à une des sociétés, à des musées, achetez un Pokéstop et on vous l'imprime dans la map, comment ils ont été générés en fait ?
Alors, je crois bien que, en fait, avant Pokémon Go, il y avait un autre jeu de la même société qui s'appelait Ingress, c'est ça. Et c'est ces joueurs-là qui ont décidé des endroits importants qui ont ensuite transformé en Pokéstop. Et c'est pour ça que la société Niantic n'a parfois aucune idée de où se trouvent les Pokéstop et de quel Pokémon faire apparaître à certains endroits. Donc parfois des endroits dangereux, etc. Donc maintenant,
parfois des endroits polémiques, comme il y avait des Pokéstop à Auschwitz ou choses comme ça.
Et du coup, ça, évidemment, ça a été retiré. Maintenant, il y a un système, on peut contacter la société et dire, là, il y a un Pokéstop, il n'est peut-être pas un endroit très judicieux. Ils peuvent l'enlever. Et c'était quoi la question ?
Comment ils se font générer ?
Oui, et du coup, c'est les joueurs qui les ont placés au début. Mais évidemment, maintenant, on peut imaginer un facteur mercantile du McDo qui va vouloir payer pour avoir son Pokéstop, qui va y mettre des leurres, et du coup, qui va attirer de la clientèle supplémentaire, ce qui est assez particulier, ou même tout simplement de la concurrence qui se fait sans même le savoir. Genre il y a deux bars dans une même rue et il y en a un par hasard, il se retrouve avec un Pokéstop, et là tout de suite tout le monde se met à aller dans ce bar là plutôt que l'autre, et ça peut être un peu particulier, donc ça peut...
Et même j'ai vu des annonces du Bon Coin, quelqu'un qui a annoncé son Bon Coin qui vendait ou louait un appartement en disant « et il y a un Pokéstop ».
Oui, parce qu'ils sont plus ou moins loin, et du coup, si on peut y accéder depuis la maison, c'est trop bien, on n'a plus besoin de sortir, on peut quand même y jouer et avoir...
J'ai un appart qui est à côté d'un square et avec un Pokéstop, donc pour les Pokéballs, quand on ressort, c'est plus facile.
Et en termes de retour, est-ce que par rapport à la communauté de joueurs, est-ce que Niantic communique beaucoup, ou c'est une société qui ne fait pas évoluer son produit en fonction des joueurs ?
Alors, le jeu est continuellement en train d'être mis à jour, parce que c'est comme ça que l'industrie du jeu vidéo se fait pour les jeux multijoueurs. Là, le jeu est tout le temps, il y a toujours une mise à jour. Ça permet aussi d'avoir en fait une sorte de ce qu'on appelle la rétention, c'est-à-dire que si je joue au jeu et puis que ça commence à m'ennuyer parce que c'est toujours pareil, du coup je vais quitter le jeu. Et là pour la boîte c'est quelque chose de pas bien, parce que si je quitte le jeu je ne paye plus, ou je ne vais pas payer même si j'avais déjà pas payé. Et du coup en faisant des mises à jour, les joueurs peuvent revenir. C'est ce qu'on voit avec le jeu World of Warcraft qui est existant depuis 2004 je crois. Aujourd'hui on voit qu'à chaque fois qu'ils sortent une nouvelle extension, il y a un pic d'utilisateurs qui revient, qui jouent pendant 3 semaines, et après, hop, petit à petit, ils repartent, et à la prochaine extension, hop, ils reviennent. Donc du coup, oui, évidemment, ils vont écouter ce que veulent les joueurs, parce que s'ils donnent quelque chose que le joueur veut, il a plus de chances de revenir, le joueur, sur le jeu.
Et on parlait des radars, par exemple. Le fait que les radars soient bannis, est-ce que ça n'a pas diminué, ou que le jeu n'a pas assez évolué par rapport à ses débuts ? Est-ce que ça n'a pas justement fait décroître le nombre de joueurs ? Est-ce qu'il n'y a pas eu des déçus de Pokémon Go ?
Je ne sais pas par rapport au radar, mais en même temps, c'est compréhensible le côté radar, parce que c'était pas quelque chose qui était officiel. C'était quelque chose qui utilisait le programme Pokémon Go pour en tirer des données qui ne sont pas données par Niantic. Parce que s'ils voulaient un radar, enfin s'ils voulaient une carte avec toutes les Pokémon affichées, ils auraient pu très bien le faire. Mais s'ils ont mis un système de où il faut se déplacer un peu sans savoir, c'est exprès. Donc du coup, c'est normal qu'ils enlèvent le radar. Même si c'est vrai que ça peut être embêtant pour les joueurs à haut niveau. Mais du coup, c'est un peu normal vu que c'était pas prévu. Je sais pas si les joueurs ont été déçus.
Il y a aussi une chose, c'est que la démission, elle est aussi normale. Il y a toujours un phénomène d'attrition, c'est-à-dire que il y a l'engouement, il y a la publicité, mais arrive à jouer des gens qui ne sont pas des joueurs habituellement, mais qui vont avoir une pratique très commune. Et puis bon, une fois qu'ils ont compris le système, parce que ce ne sont pas des joueurs, un vrai jeu doit être pris au sérieux par le joueur, quand même. C'est-à-dire le fait que ce soit un jeu, faut le prendre au sérieux. C'est quelque chose de sérieux. Pokémon, on y joue sérieusement pour atteindre des choses intéressantes dans le jeu. Si c'est juste, juste de temps en temps, on voit très vite les limites. Donc effectivement, parmi les 3,5 millions, je ne sais plus que de joueurs, y en a beaucoup. C'est des joueurs vraiment très très occasionnels. Donc c'est normal qu'ils disparaissent au bout d'un moment.
Tout à fait, oui, c'est ça.
En termes de Niantic, a été assez critiqué au début sur les données personnelles qui étaient utilisées dans Pokémon Go. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense surtout à toi, Olivier, du côté de cette société de contrôle qui est quand même une grande thématique science-fictionnesse.
Oui, c'est une grande thématique, et pas une société de contrôle par le jeu. Alors effectivement, il faut savoir, il y a quand même une particularité quand même. Quand on joue à Pokémon Go, vous avez deux. Il faut se créer un compte parce qu'il y a un utilisateur. Et vous avez deux possibilités de créer votre compte, soit d'utiliser le compte Google, soit un compte Club des droits de dresseur, qui est un compte Niantic pour faire simple. Donc effectivement, le problème, c'est que si vous utilisez votre compte Google, les données que vous avez par Google vont vers Niantic. Donc ça,
j'utilise mon compte Google.
Voilà. Donc moi pas. Mais donc effectivement, là, on ne sait pas. Alors, de toute façon, ces données-là, elles vont être utiles à Niantic. Ça, on peut pas. Il faut pas maintenant dans quelle dimension. Mais ça, c'est sûr. C'est-à-dire le fait qu'ils aient utilisé Google, c'est pas un hasard. Il y a vraiment.
Alors après, Google était actionnaire sur le jeu et a aidé d'un point de vue technologique. Parce qu'il faut bien afficher toutes les rues, etc. Ça utilise les données de Google Maps et directement grâce aux technologies GPS, etc. Donc il y avait un vrai partenariat entre Google et Niantic. Après, au niveau des données, je sais que dans le jeu vidéo, en tout cas, on utilise les données du joueur, peut-être sûrement aussi pour les revendre, etc. Mais d'un point de vue de conception du jeu, c'est aussi vachement intéressant, vachement important pour pouvoir améliorer le jeu, de savoir ce qu'ont fait les joueurs, de savoir leur niveau en général, combien de temps ils prennent entre chaque niveau. Toutes ces données-là vont être ensuite réutilisées par les game designers pour rééquilibrer le jeu, le rendre plus intéressant. S'ils remarquent qu'il y a un Pokémon qui est bien trop difficile à attraper ou qui apparaît pas du tout assez, qui est pas du tout assez, qu'on le voit pas assez, ou il est trop difficile à attraper, etc. Ça, ce sont des données qui sont données par les joueurs, enfin données, qui sont prises aux joueurs et qui ensuite sont réutilisées par les game designers pour régler le jeu et le rendre plus fun. Plus intéressant.
Est-ce que c'est assez fréquent ce genre de données utilisées par les game designers en termes de développement?
Oui, c'est tout un domaine de la création de jeux, ce qu'on appelle le data analytics, où il y a des gens donc, qui vont s'occuper de mettre dans le code du jeu des sortes de capteurs pour que dès qu'une action se fait, on récupère l'information comme quoi l'action a été donnée avec quelques paramètres, genre sa position dans le monde, quel Pokémon c'est, pour reprendre Pokémon Go, mais ça peut être utilisé pour plein de types de jeux. Et ensuite, les game designers vont pouvoir analyser ces données pour en tirer des conclusions et améliorer le jeu. Ça peut être utilisé dans Pokémon Go, dans les jeux multijoueurs, pour régler les maps, etc., dans les tutoriels également. Dans les jeux type Builder, Farmville et compagnie, pour savoir au bout de combien de temps les gens ils vont quitter le jeu, savoir si ils sont pas trop frustrés, et toutes ces données sont très importantes pour régler le jeu après. Mais du coup, c'est vrai que c'est des données qu'on prend et qu'on demande pas forcément, le joueur n'est même pas au courant qu'on lui prend ces données là.
Est-ce qu'en termes purement de conception de jeu, l'engouement de Pokémon Go va faire des petits?
Va faire. Oui. Oui. Alors oui, on peut imaginer que là, clairement, Pokémon Go, donc avec ses 45 millions d'utilisateurs à un moment. C'est énorme. Enfin là, ça a quand même bien baissé depuis, mais en plein cœur de l'été, c'était vraiment dizaines de millions. Forcément, on va surtout que comme le système de jeu est vraiment très très simple, il y a plein de choses à imaginer. On peut très bien imaginer des futurs MMO RPG à la World of Warcraft et compagnie, qui utilisent, parce que techniquement là qui utilisent la carte du monde, enfin du monde réel, comme carte de jeu. Avec des quêtes, des monstres à battre, des guildes, on peut très bien imaginer que les guildes vont aller acheter un Pokéstop, enfin l'équivalent d'un Pokéstop, pour en faire un lieu de rencontre entre les joueurs de la même guilde, pour qu'ils préparent leur attaque du soir, leur ce qu'on appelle la raid, etc. Évidemment, ouais, il y aura des futurs jeux, plein de types de jeux, j'imagine. Là, évidemment, il faut encore un petit peu de temps. Il y a la digestion entre guillemets des.
Enfin, si, il y a quand même un problème. C'est-à-dire, on est passé ça. C'est-à-dire qu'il faut trouver le concept. C'est-à-dire que, par exemple, pour reprendre, tu parlais de World of Warcraft, il y avait des jeux multijoueurs avant, mais oui. World of Warcraft, c'est à la fois le monde de Warcraft, donc de jeux qui étaient connus de joueurs.
Déjà,
donc, il y avait
déjà une licence, comme pour
une licence et un système de jeu qui avait tenu compte de ce qui était fait pour faire quelque chose qui fonctionnait bien et attirer un public qui n'était pas fan du farming, des jeux précédents.
Oui.
La question, c'est est-ce que Pokémon Go n'est pas le truc tellement idéal comme licence et comme système pour que celui qui va remplacer aura... S'il faut vraiment quelque chose d'aussi fort.
Du coup, je pense pas qu'il y aura un remplaçant de Pokémon Go. Il n'y aura plus aucun jeu... Sûrement, d'ici quelques années, je pense pas qu'il y aura un autre jeu du même genre qui fasse autant de joueurs. Mais par contre, Pokémon Go était donc pour tous les publics, mais maintenant on peut imaginer des jeux plus spécialisés. Un jeu spécialisé pour tel type de public qui aime les jeux RPG, etc., et qui serait dans ce genre-là, et d'autres pour d'autres types de publics. On aura plutôt des jeux plus spécialisés qui reprennent un peu le concept, mais qui vont améliorer pour avoir plus leur patte, leur jeu. Différent. Ouais. Mais un jeu qui prend autant de joueurs que Pokémon Go et avec le même concept, non, il n'y en aura pas d'autres, mais il y a déjà Pokémon Go.
Sans compter qu'il faut savoir que même que la licence, dans le monde du jeu, parce que c'est donc un jeu sur téléphone, dans le monde du jeu, il faut se souvenir des jeux qui ont été très importants, Angry Birds, etc., qui ont disparu à vitesse très rapide.
Angry Birds n'a pas
disparu. Les autres licences la même société n'ont pas monté autant que ce qu'avait été Angry Birds.
Oui, Angry Birds, avant qu'ils arrivent à faire Angry Birds, ils ont fait, je sais plus, une dizaine ou une quinzaine d'autres jeux qui n'ont pas du tout marché. La boîte tenait à peine et à un moment, ils ont fait Angry Birds et là, ça a bien marché. Mais c'est très difficile le jeu comme milieu pour se faire connaître son jeu, etc.
Surtout, le jeu sur téléphone, sachant que ça ne doit pas coûter cher, voire ça va être gratuit. Donc il faut payer le développement.
Ça doit être compatible avec tous les téléphones.
Avec les téléphones. Donc c'est une économie très particulière. Je ne sais pas si tu peux parler de l'économie
L'économie free-to-play.
Oui.
Au début de l'App Store en 2007, avec la sortie de l'iPhone, et pas mal, les jeux étaient payants. On arrivait sur le store, les jeux étaient à 99 centimes. C'était pas quelque chose d'impensable. Aujourd'hui, c'est impensable de vendre un jeu 99 centimes. Aujourd'hui, on va sur le store, les jeux doivent être gratuits. C'est juste que le consommateur ne va pas acheter un jeu sur un téléphone. Du coup, le jeu est gratuit. Après, il y a deux grosses techniques pour faire l'argent. Soit on met des pubs. C'est par exemple ce que faisait Crossy Roads ou même Flappy Bird. Flappy Bird, il n'y a rien à acheter, je crois pas. C'est que des pubs entre chaque partie. Et les pubs, c'est très très mal payé. Mais quand il y a des millions de gens qui regardent les pubs, du coup, là, ça peut être à peu près... vivable. On est à environ $1 pour les 1000 ou 2000 vues de pub, ce qui est pas beaucoup quoi. Et avec un peu plus d'argent si tu cliques sur la pub, mais ça dépend des méthodes. Et l'autre technique, c'est d'avoir des objets dans le jeu qu'on achète pour recharger des choses. On se retrouve avec maintenant des systèmes d'énergie dans les Farmville et compagnie, dans les Candy Crush. Tu peux faire une partie de Candy Crush, mais si tu perds, il faut attendre 20 minutes que ça se recharge. Ou alors, tu peux payer un diamant. Et un diamant, tu peux l'acheter dans la boutique. C'est ce qu'on appelle une hard currency. C'est une currency qui s'achète, une monnaie qui s'achète avec de l'argent réel. Et qui peut aussi se récupérer parfois en jeu. généralement on va en donner un petit peu au joueur au début pour lui montrer comment ça marche. Et une fois que ça devient intéressant, là, hein, il en a plus. Et s'il veut continuer à progresser aussi rapidement, eh ben on va lui proposer d'acheter.
Et comment on adapte justement, comment on réfléchit au prorata de gratuit payant sur un freemium? Comment est-ce qu'on corrige le modèle? Est-ce que tu connais des exemples qu'on corrige le modèle en cours de route en se rendant compte que le contenu payant n'est pas attractif?
Justement, avec l'analyse des données, on peut savoir quel joueur achète quoi, combien de joueurs ont acheté tel objet, tous les combien de temps ils achètent. Toutes ces données, on peut les avoir en fait, dans des sortes de méga tableaux Excel. C'est comme du big data en plus. C'est big data, mais version jeu vidéo. Ça permet justement après d'améliorer. Si on voit qu'il y a un objet qui n'est jamais acheté, eh ben, on va peut-être modifier son icône. Et peut-être on va modifier l'icône et on va le faire tester que à 10% de la population, enfin 10% des joueurs. Donc il y a 10% des joueurs qui vont avoir une mise à jour où l'icône a changé. Et là on va voir, est-ce que sur ces 10% de joueurs, est-ce qu'ils vont acheter plus qu'avant ou est-ce qu'ils vont acheter moins? Et là, si c'est mieux, ben on va peut-être le faire tester à tout le monde. Et c'est à force de modifier comme ça, petit à petit, un petit peu le dessin, changer un peu le prix, rajouter 10% de choses en plus. Et petit à petit, on trouve, mais il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de recette magique, c'est vraiment du... On teste, c'est une recette de cuisine. Petit à petit, on rajoute des trucs, on en enlève. Enfin, on peut pas normalement enlever qu'on fait de la cuisine, mais là, on peut, donc c'est cool. Voilà. Ouais, c'est plus du test, petit à petit.
Et question personnelle, vous jouez tous les deux à Pokémon Go. Vous y jouez en version gratuite ou payante? Et si oui, sinon, pourquoi?
Alors, globalement, si j'ai payé quelque peu pour... Parce qu'en fait, donc, on a un sac de Pokéball et donc illimité. Et donc, très vite, on comprend que c'est quand même mieux d'en avoir un certain nombre. Donc, j'ai acheté pour en avoir 500. Et donc, ça permet de pouvoir durer un certain temps sur la journée. Parce que si on n'a plus de Pokéball, on ne peut plus jouer. Donc, c'est ça qui permet de gérer.
Oui, ben justement, voilà, le système d'énergie, là, dans Pokémon Go, il n'y a pas de système d'énergie, mais il y a un système de quantité de Pokéball qu'on possède. Et en plus, ce qui est intéressant, du coup, c'est que c'est basé aussi sur le skill, enfin sur l'habilité du joueur à jeter les Pokéballs. Parce que s'il est bon, il va en utiliser moins que s'il est mauvais. Ce qui est plutôt une bonne chose, du coup, par rapport au système d'énergie tout bête, où qu'on soit bon ou pas, bon, bah, il faut attendre 20 minutes pour jouer à Candy Crush. Moi, personnellement, je n'ai pas payé dans Pokémon Go. Je n'ai pas joué non plus beaucoup. Hein. J'ai joué cet été. Avec la hype qui allait avec, j'ai fait quelques après-midi collections. J'y ai pas vraiment rejoué depuis. Mais
pourquoi d'ailleurs tu n'as pas rejoué?
Parce qu'en fait j'ai pas de 3G. Donc du coup quand je piquais la 3G des potes et puis mais quand je suis chez moi, on peut pas y jouer quoi. C'est un jeu. Il faut
sortir. Au-delà de ça, si tu avais toujours la 3G,
j'aurais peut-être joué un petit peu plus, ouais. Mais après, oui, j'aurais joué un petit peu plus, sûrement. Après, en tant que game designer, je dois tester plein de jeux et j'ai pas forcément le temps de jouer à Pokémon Go.
Puis de toute façon, il y a un problème technique, c'est-à-dire qu'il faut sortir dehors.
Voilà.
Et donc,
c'était bien pendant les vacances.
Voilà, pendant
d'été.
Les vacances d'été, c'était génial. Ils ont pas choisi la sortie au hasard. C'est-à-dire que là, du coup, il fait froid, il va pleuvoir, il va neiger. Super, il y a une Magikar, j'en ai avoir 400. D'accord, mais bon, voilà, il y a une limite quand même.
Oui, enfin, on n'a pas que ça à faire.
Et puis même, on a une vie. Enfin, je veux dire, c'est intéressant. Il y a quand même la vie réelle, elle prend quand même toujours un peu le dessus. C'est pour ça que les inquiétudes autour de Pokémon Go, c'est que les joueurs, moi je vois bien donc à Lyon au parc de la Tête d'Or, donc pendant l'été c'était plein, il y avait des endroits, il y avait une densité de joueurs qui était assez impressionnante de voir la densité de joueurs. Et puis ces temps-ci, quand le temps refroidit, il y en a beaucoup moins, voire quasiment plus du tout. Il y a une logique, la logique du monde, elle revient. Mais par contre, ce qu'on a vu et qui est très intéressant, c'est-à-dire que les jeunes qui jouent aux jeux vidéo restent chez eux, etc. Bah là, ils ont marché, ils sont sortis, et puis c'était très intéressant. Moi, je trouve qu'il y avait des choses très intéressantes socialement. C'est-à-dire, vous vous posiez à un coin, parfois, et ben, tout d'un coup, quelqu'un disait, il y a un Pikachu. Alors tout le monde, mince, et puis donc on y va. Donc, il y a quelque chose qui se passe à ce niveau-là. C'est pas juste,
oui,
c'est
effectivement,
on a caricaturé, chacun est sur son téléphone. C'est pas jamais totalement vrai, quoi. On voit des gens qui font quasiment du pique-nique. Il y a des endroits. Alors, faut expliquer un peu. Par exemple, dans les parcs, on a plusieurs Pokéstops qui sont, on a, peut avoir 2 à 3 Pokéstops proches les uns des autres. Et donc, ce qu'on a dit avec les leurres, on attire et donc on a des Pokémon qui vont apparaître beaucoup plus souvent. C'est-à-dire qu'au lieu de les attendre toutes les heures, ils vont arriver toutes les 2, 3 minutes. Oui. Donc, du coup, on se pose à un endroit et on attend qu'ils apparaissent. Et donc, du coup, on peut se réunir entre copains, discuter, voilà, manger. Et faire, pendant ce temps-là, hop, ah, tiens, voilà.
Tout à fait, oui.
Est-ce que c'est pas aussi l'intérêt de Pokémon, enfin de Pokémon et de ce genre de jeu de réalité augmentée, de casser, enfin comme au cinéma, de casser le quatrième mur et d'arriver dans le réel et de faire interagir le réel plutôt que de rester devant un écran. Est-ce que c'est pas ça l'innovation première de Pokémon, enfin.
Oui, là le vrai intérêt de Pokémon, c'était que la fiction entre dans la réalité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un monde virtuel où on a une fiction. La fiction utilise le monde réel comme carte de jeu. Et du coup, oui, tout à fait, c'est la réalité.
Et en termes de développement, c'est quelque chose qui est de plus en plus courant de se dire on va utiliser quelque chose de réel pour une réalité augmentée, entre guillemets, qu'elle soit en termes de données sur un GPS ou en termes d'appareils photo. Est-ce que c'est une plus-value ajoutée à un produit ludique ?
Alors, une plus-value, pas forcément. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau qui apporte de nouvelles mécaniques possibles et de nouveaux horizons ludiques ? Oui, tout à fait. On imagine de nouveaux jeux en augmented reality, mais ça ne va pas remplacer l'ancien mode de jeu. De la même manière qu'on a toujours des jeux de plateau alors qu'on a des jeux vidéo. Et heureusement, parce que c'est vachement bien les jeux de plateau aussi. Donc ça permet des nouvelles choses, mais ça va pas supprimer l'ancien. Et au niveau de l'autre question, c'était est-ce que c'est plus facile à faire ? Enfin, maintenant qu'il y a eu Pokémon Go, les gros pour faire un jeu, on utilise ce qu'on appelle un moteur de jeu, qui est une sorte de gros logiciel. Et ces logiciels maintenant commencent à intégrer des capacités d'augmented reality, le côté GPS, etc. Intégrer au moteur de jeu, comme ça l'équipe de développement n'a pas besoin de se focaliser dessus, parce que bon bah pour Ingress et Pokémon Go, il y a eu un gros travail de recherche et développement. Pour pouvoir afficher ses Pokémon, le GPS, ils ont dû faire des contrats avec Google, etc. Maintenant que ça a été fait une fois, la technologie, on la connaît, on peut l'utiliser beaucoup plus facilement. Donc du coup, il y aura de nouveaux jeux avec ça.
Et moi, je me demande, j'étais en train de réfléchir en t'écoutant sur quelque chose, c'est que il y avait une petite vidéo qui circule, qui est très intéressante, avec une augmented reality, mais avec des lunettes 3D.
Ouais.
Et sauf que du coup, la vidéo était amusante parce que du coup c'était l'utilisateur se retrouvait dans un environnement qui était plein de sollicitations visuelles, de en gros des tas de monstres, et ça devenait un quelque chose de totalement infernal. Là, ce qui est bien, là ce qui est bien avec on a le téléphone, on peut le maîtriser d'une certaine manière. Tu disais quelque chose de très intéressant, la plupart des gens qui utilisent Pokémon Go, on a le téléphone et on le met dans la poche. Même Niantic a développé un bracelet montre, ce qui fait qu'on n'est pas obligé d'avoir le téléphone, la montre vibre quand on est devant un Pokéstop, qu'on est proche d'un Pokémon. Donc on est, parce que l'enjeu c'est qu'on soit encore connecté au réel, qu'on soit encore dans le réel. La montre est un très bon exemple, c'est-à-dire que on voit, alors évidemment quand tous ceux qui se baladent, qui voient des gens qui se baladent avec le nez sur le téléphone, bon, c'est, on se dit mais ils sont dans le parc. Alors, c'est pour ça que je prends l'exemple du parc de la Tête d'Or. On est dans un parc magnifique et les gens ils ont le nez sur leur truc, on se dit bon ben vraiment bonjour, merci les jeux vidéo quoi. Mais et en fait bon, une bonne pratique, et donc c'est dans le programme de le faire, d'avoir un téléphone, et les montres sont là pour qu'on reste avec le réel.
Est-ce voilà, qu'il y a justement pas un manque de bonnes pratiques que Niantic n'a pas forcément développé sur l'utilisation qu'on peut le mettre dans la poche?
Oui, c'était très intéressant ce côté, on peut le mettre dans la poche, ça se met en mode, en plus ça économise l'énergie de le mettre dans la poche, parce que mine de rien ça consomme vachement énormément de batterie. Du coup oui, ce mode dans la poche, on regarde le monde réel. Et quand il y a un moment important dans le jeu, alors ça nous rappelle et on reprend notre téléphone, ou alors avec la montre, c'est pareil, ça vibre, etc. Mais justement, avec cette histoire de casque augmented reality, donc pas les casques de réalité virtuelle où c'est un fond noir, mais ceux où ce sont des lunettes transparentes, comme les Google Glass qui n'ont pas du tout marché, et maintenant l'HoloLens qui commence à arriver d'un point de vue professionnel, qui est utilisé dans pas mal de domaines maintenant. Là, du coup, je pense qu'il y aura plus ce problème de tête dans le téléphone, vu que on pourra toujours voir le monde réel et par-dessus le jeu. Donc, du coup, on aura toujours les lunettes sur soi. Là, pour l'instant, elles sont assez grosses et moches, donc ça se voit. Mais bientôt, ce sera directement dans le verre des lunettes classiques. On demandera chez l'opticien. Moi, je veux les verres particuliers qui ont l'afficheur de virtuel. Ça, faut encore attendre quelques années quand même. Hein. Mais et au fur et à mesure, il y aura une comment on appelle ça,
une convergence.
Une convergence entre le réel et le virtuel. Enfin, qu'on ne se posera même plus la question, je pense, à un moment.
Mais, enfin, si, moi, je me pose...
Il y aura toujours la question.
Je me pose la question parce que la vidéo dont je parle... non, je n'ai pas la référence. Hein, donc, ça rendait quand même... La question, c'était
dystopique.
Pouvoir.
C'était
ouais,
carrément
c'est dystopique. Hein, c'était la question du pouvoir. Parce que le téléphone, on a quand même encore le pouvoir de le mettre dans la poche.
Oui, il est toujours dans ta poche, quand même.
Oui, non, mais, oui, mais on a le choix.
Oui.
Tandis que les lunettes, le truc... Et quelle est la part de... Il faut le déconnecter, c'est pas toujours.
Le truc, c'est que les lunettes fonctionneront sûrement comme n'importe quel écran de téléphone ou autre. C'est-à-dire qu'il y aura un système d'exploitation derrière où on peut choisir les applications qu'on veut lancer, qu'on veut arrêter, et on pourra très bien décider de tout killer, de se mettre en mode avion et de n'avoir aucune distraction ou même d'enlever ses lunettes, hein, tout simplement. Et après, quand on veut de nouveau avoir les notifications, le GPS, le Pokémon Go, le je ne sais quoi, les mails qui apparaissent sur le côté, là on pourra remettre le Wi-Fi, choisir les applications qu'on autorise à mettre des notifications. Mais c'est déjà le cas avec le téléphone. On a nos mails qui apparaissent, mais on peut très bien aller dans les préférences, dire je ne veux aucun mail, ou alors que toutes les 4 heures. C'est juste qu'on n'y pense pas et du coup on les a toutes les 2 minutes.
Est-ce que d'ailleurs, en termes de développement sur téléphone, ces contraintes d'affichage, d'ergonomie qui sont assez malléables, sont des contraintes qui rentrent grandement en ligne de développement?
Alors,
sur l'autonomie, sur la fréquence d'utilisation,
la performance aussi, de l'affichage aussi. Bien, au début de la sortie des smartphones, c'était assez compliqué, comme tout début de technologie, parce qu'il y avait un logiciel pour faire sur Android, un logiciel pour faire sur les téléphones Apple, un logiciel pour les autres types de téléphones, et puis il fallait faire un code pour chaque type de téléphone, et c'était la galère, il fallait tester sur tous les téléphones, et il y avait des gros problèmes techniques. Aujourd'hui, bon bah, ça fait 10 ans qu'on a des smartphones, enfin un petit peu moins, donc du coup c'est beaucoup plus simple, on a un logiciel qui fait tout, un moteur de jeu, et qui va gérer tous les téléphones, il n'y aura aucun problème, enfin quasiment, il faut quand même faire du playtest, tester, que ça vérifie sur la plupart des gros téléphones, mais ces problèmes techniques ont un peu disparu, donc maintenant on va en avoir des nouveaux avec la réalité augmentée et la réalité virtuelle, avec ah bah c'est compatible tel casque, mais c'est pas compatible avec les lunettes de tel constructeur, et il faut faire plein de bidouilles. Mais d'ici 5 ans, pareil, ce sera de nouveau adapté pour que ce soit fonctionnel pour tous les développeurs. Il faut bien savoir que la plupart des développeurs ne sont pas des ingénieurs hardware. Ils vont pas pouvoir coder des drivers ou des choses comme ça. Ils vont juste faire un jeu simple par-dessus quelque chose qu'a fait une autre entreprise. Donc ça apparaît au fur et à mesure. Mais oui, là, ce qui était intéressant dans Pokémon Go, c'est qu'il y a finalement assez peu d'affichage d'objets 3D. Il y a surtout de l'interface, de l'interface utilisateur. Et c'est plutôt pas mal, parce que l'interface utilisateur, ça demande beaucoup moins de batterie et de ressources que d'afficher toute une scène en 3D. Et vu que c'est un jeu qui est grand public et que tout le monde va y jouer, même avec un téléphone à très bas de gamme, il faut que ça puisse tourner sur tous les téléphones, même bas de gamme, qu'on puisse lancer les Pokéballs et que ce ne soit pas en train de ramer comme un jeu 3D complexe qu'on peut avoir sur les téléphones haut de gamme.
D'ailleurs, tu parlais de grand public. Est-ce que la cible de Pokémon Go est assez large, en fait?
Pour avoir 45 millions d'utilisateurs, c'est très 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 large. Justement, c'était très intéressant avec Pokémon Go, c'est que ça a attiré tout type de joueurs, enfin tout type de personnes même. Ça a attiré déjà les joueurs de Pokémon, on va dire les 8-16 ans, qui jouent à Pokémon sur console portable. Ceux qui jouaient à Pokémon ou qui ont regardé les dessins animés quand ils étaient plus jeunes, on va dire la génération Y jusqu'à 35 ans, et même ceux après, qui ont découvert ça, qui ont vu le phénomène, qui sont sûrement pas arrivés dès le début, mais qui sont arrivés une semaine, deux semaines après. En fait, c'est à quoi ce truc, tout le monde y joue, c'est quoi ça, je vais l'installer, et puis finalement, oh, c'est rigolo, je récupère des Pokémon, je connais pas les Pokémon, mais c'est pas grave, c'est des petites créatures, je les récupère, il n'y a pas besoin de connaître l'univers du jeu pour y jouer. Il n'y a pas besoin de savoir le background, toute l'histoire de Pokémon, etc. pour y jouer. C'est juste, je collectionne des Pokémon et il y a plusieurs niveaux de lecture et du coup, ça marche très bien aussi pour le grand public.
Et j'ai même vu
70 ans qui jouent.
Et même j'ai vu des familles qui initiaient leur enfant qui avait 3-4 ans à lancer leur première Pokéball, etc. Donc
vraiment,
en plus, il y a une transmission, une culture commune qui se transmet. En plus, donc, moi, ça me fait penser. C'est pour ça que c'est intéressant. Ça me fait penser au phénomène manga, c'est-à-dire que on a eu aussi le manga en France s'est développé parce que il y a eu des générations Albator, Goldorak qui ont vu les dessins animés. Ensuite, les premiers mangas en VF sont arrivés et donc il y a cette génération là qui s'est intéressée à ça. Il y a ensuite ceux qui ont vu Dragon Ball à la télé qui se sont rajoutés. Il y a donc une succession de couches de générations qui sont arrivées, avec ce qui était intéressant aussi, c'était que les enfants apprenaient à leurs parents ce qu'étaient les mangas. Donc, et du coup, les parents lisaient les mangas parce que du coup, ils ont mon Dieu, nos enfants lisent un truc, c'est violent, etc. Et donc, du coup, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et donc, il fallut leur apprendre. Donc, il y avait un lien de génération grâce à ça. Donc, c'est la même chose avec Pokémon. On a ce lien générationnel.
Tout à fait, oui.
Et c'est quoi l'avenir de Pokémon Go, selon vous? L'avenir.
L'avenir de Pokémon Go, là, pour l'instant, c'est l'hiver. Enfin, ça va être l'hiver.
Donc, juste en faisant mes petites recherches, ils viennent d'annoncer quêtes journalières et compagnie.
Ah ouais, ouais. Ah, je ne savais pas ça.
J'ai lu ça sur un petit article, une petite rumeur.
Ça paraît logique. C'est là le principe, ça va être d'essayer de rester quelque chose qui existe. Parce que là, la plupart des joueurs qui sont venus par rapport au la hype qu'il y avait pendant l'été sont repartis. Les joueurs qui ne sont pas des hardcore gamers sont repartis. Restent encore ceux qui veulent avoir tous les Pokémon, etc. Donc c'est normal qu'ils fassent des mises à jour. Et en plus, quêtes journalières, ça me dit tout de suite rétention de joueurs, parce que si c'est journalier, ça veut dire qu'il faut que tu reviennes tous les jours. Et donc si tu reviens tous les jours, ça devient une habitude, ça devient quelque chose que tu intègres dans ton comportement. Et du coup, tu restes sur le jeu. Alors que si c'est une quête, si c'est juste des quêtes qui sont là comme ça, tu peux très bien ne pas jouer pendant 2 mois, c'est pas grave. Avec la quête journalière, si tu joues pas pendant 2 mois, tu rates du contenu entre guillemets.
Alors, il y a quand même déjà quelque chose pour tous ceux qui ont Pokémon à ce moment, c'est Halloween. Donc on a des Pokémon qui arrivent plus, qui sont plus fréquents en ce moment. Donc ils introduisent des événements aussi.
C'est ça. Ça c'est classique du jeu multijoueur actuel, c'est qu'on va mettre des saisons, des sorte de moment dans le jeu, c'est-à-dire que le jeu va évoluer continuellement. Ça avait pu être statique. À une époque, on faisait des jeux, on le faisait, et une fois qu'il était sorti, on s'en occupait plus, même si c'était un jeu multijoueur, on allait régler les quelques bugs, etc. Puis ensuite, on a laissé le jeu mourir avec les joueurs qui se barrent petit à petit du jeu. Maintenant, on essaye de le garder le plus longtemps possible, parce que c'est aussi la monétisation qui a changé. Avant, on achetait le jeu, et donc une fois qu'on a acheté et qu'on paye plus, on s'en fout qu'on se barre ou pas pour la boîte qui fait le jeu, ça ne change rien, t'as déjà payé. Maintenant avec Pokémon Go, comme il faut continuellement payer, il n'y a plus un moment où t'arrives et tu payes, tu payes quand t'as envie. Du coup le but, ça va être de garder les joueurs le plus longtemps possible. Et ce côté quête journalière pour les faire revenir, le côté des saisons, tiens maintenant il y a un événement Halloween, bon je vais y jouer 3 jours parce que c'est Halloween, c'est rigolo. Ensuite, je vais complètement oublier le jeu pendant 1 mois. Puis, oui, mais maintenant, Noël. C'est Noël. Et du coup, il y a les super Pokémon de Noël. Il y a des bonus, etc. Et puis, si j'utilise Pokémon et que j'ai aussi le jeu sur DS, du coup, je peux avoir un Pokémon super rare. Je vais y revenir. Et comme ça, on va avoir tous les... Là, à mon avis, ça va quand même baisser pendant l'hiver et tout. Mais c'est possible qu'à l'été prochain, ils fassent une grosse mise à jour. Et revenez sur Pokémon Go. Peut-être. Ou peut-être pas, hein. C'est que pure spéculation. Mais ce serait logique.
Parmi les trucs, de toute façon, on le sait, enfin, vu que il y a des tests quelque part, des radars. Puisque à l'origine, il y avait une sorte de moyen de rechercher où étaient. Il y avait les petits pas en dessous des Pokémon. Ouais, donc il y avait un système de radars. Mais sauf que pourquoi c'était un bonnet ? C'est-à-dire que il faut dire aussi que l'infrastructure du jeu est très exigeante pour les serveurs.
Et donc, gros problèmes de serveur.
Voilà, voilà, tous ceux qui ont joué, on se dit, bah voilà, tout d'un coup, ça fonctionnait plus. Et pour ça qu'ils ont abandonné les radars, parce que ça, c'était une charge trop importante pour les serveurs.
Ils s'attendaient pas à avoir autant de joueurs, en fait, tout simplement. Donc, ils avaient prévu des serveurs pour un certain nombre de joueurs. Et finalement, quand t'as trois fois plus qui arrivent, les pauvres serveurs, ils peuvent pas tenir. Donc, du coup, c'est vrai qu'on va se retrouver à enlever des fonctionnalités pour pouvoir garder les serveurs frais.
D'ailleurs, sait-on comment les Pokémon apparaissent sur la carte ? Est-ce que c'est un algorithme qui est connu ou c'est...
Là, c'est
ou Niantic reste très secret sur...
Oh, bah, c'est secret, mais entre... Enfin, c'est pas que c'est secret, c'est qu'on s'en fiche un peu, en fait, limite. Sauf à haut niveau, très haut niveau, on pourrait avoir envie peut-être d'optimiser, mais là, du coup, ça casse l'immersion. Entre guillemets, qu'on se met à optimiser l'apparition des objets dans un jeu. C'est ce qu'on faisait aussi dans Minecraft avec les usines à mob, etc. Dans Minecraft, ça marchait parce que t'as pas vraiment de. Enfin, c'est différent. Mais dans Pokémon Go, il y a une sorte de fiction Pokémon. Si on se met à optimiser l'apparition des Pokémon, ça casse le roleplay, entre guillemets. Et ça reste une sorte de grand jeu de rôle où on va tous chasser les Pokémon. Du coup, les algorithmes sont évidemment secrets. Enfin, c'est juste qu'ils sont propriétaires, quoi, de Niantic. Ils sont sûrement mis à jour souvent en plus, donc on peut pas vraiment essayer de faire du rétro engineering.
La seule chose qui existe et qui est autorisée par Niantic, c'est une carte d'apparition, c'est-à-dire que on a des applications, on a la carte et on voit où les autres joueurs. Donc il y a un aspect collaboratif. Les joueurs disent à tel jour, à telle heure, j'ai trouvé un Pokémon. En se disant bon, ils peuvent apparaître aussi. Donc on se dit je peux revenir.
Ça, c'est pour avoir les sortes de zones, savoir que voilà, dans le haut de la ville, il va y avoir plutôt tel type de Pokémon. Près de la rivière, il va y avoir plutôt des Magikarp. Ça, c'est des choses qui peuvent se donner entre les joueurs. Mais après, précisément la position des Pokémon, si on la donne, bah il y a plus de jeu. Il y a plus de recherche, il y a plus d'exploration.
Niantic a annoncé que Pokémon, qu'ils allaient peut-être sortir un Harry Potter. Est-ce qu'il n'y aurait pas une, qu'un Harry Potter Go serait peut-être en cours de route dans les rumeurs. Est-ce qu'il n'y aurait pas justement un va-tout à ressortir des jeux sous licence qui s'inspiraient du cartoon Pokémon ?
Pourquoi pas ? Mais là, je pense que c'est beaucoup trop tôt pour ressortir un jeu. Là, le jeu vient de, il y a encore des millions de joueurs dessus. Enfin, j'imagine, oui, plusieurs millions. Donc là, c'est beaucoup trop tôt pour ressortir un jeu du même genre. Il faut attendre que le genre de jeu... C'est un nouveau genre, entre guillemets, hein, ce truc-là, avec Ingress, quand même. Mais Ingress était moins connu. C'est quand même il faut attendre que ça redescende, que les gens passent à autre chose, entre guillemets, ils oublient un peu, que dans l'industrie du jeu, bah, on y réfléchisse, qu'on fasse des conférences, etc., que ça mature un peu. Et une fois qu'on aura bien réfléchi, il y aura une nouvelle génération de jeux. Mais je pense que là, si on refait tout de suite un jeu Harry Potter, ça va pas marcher parce que les gens, ils ont déjà Pokémon, ils vont pas réinstaller un nouveau jeu du même genre deux jours après, quoi. Ça, c'est pas, je pense pas que ça marche tout de suite.
Et puis en plus, moi je pense que c'est aussi comme ce qui s'est passé à World of Warcraft et Blizzard, c'est-à-dire que Blizzard a fait mûrir son jeu, a pris, donc ça serait bien que Niantic prenne le bon exemple de Blizzard, c'est-à-dire que World of Warcraft n'était pas excellent dès le début. Il a fallu laisser du temps, éliminer des essais-erreurs et avoir au fur et à mesure des tas de traits caractéristiques qui sont devenus ce qui ont fait attirer que les joueurs sont restés. Moi, j'ai joué pendant, je sais pas moi, 6 ou 7 ans. Il y a un moment, pour attirer ça, et c'est vrai qu'au début, il y avait des handicaps jusqu'au moment. Voilà, donc il y a ça. Faut que Niantic apprenne aussi. Je pense qu'ils ont intérêt à apprendre.
Oui, la meilleure chose que peut faire Niantic, c'est de continuer à mettre à jour le jeu pour qu'il y ait des nouvelles fonctionnalités, etc. Tout en gardant une sorte de player base de hardcore, du coup, parce que les joueurs classiques, ils vont pas continuer à jouer pendant l'hiver. Donc ils vont garder les joueurs les plus immergés dans le jeu, les plus hardcore, leur faire tester les nouvelles fonctionnalités, avoir leur retour, améliorer le jeu, et comme ça l'année prochaine, quand tout le monde aura oublié, au fait Pokémon Go, il y a eu plein de mises à jour, et là tout le monde revient dessus et fait waouh, il y a eu tellement de mises à jour, il s'est tellement passé plein de choses, on y rejoue. Ça, c'est la meilleure chose qui puisse se passer pour eux. Après, si ça se trouve, ça va pas faire ça. Hein. Ça se trouve, ils vont faire encore Pokémon Go. C'est bon, c'était saut 2016.
Et en termes de licence que vous aimeriez voir adapter sous cette forme, ce serait quoi pour toi, David ?
Bah, moi, j'avoue que justement, c'est il y avait vraiment le fantasme de la quête qui existait. C'est-à-dire le jeu Pokémon d'origine, c'était déjà ça. Donc, c'est très difficile parce que moi je vois pas Harry Potter, dans Harry Potter les êtres magiques c'est du côté de Poudlard, ils sont pas dans le monde réel, donc il faudrait trouver quelque chose qui soit équivalent, où il y ait des choses dans le monde réel, c'est ça l'enjeu, et donc trouver une licence c'est très compliqué effectivement. Parce que c'est World of Warcraft est une grosse licence. Je vois pas comment on pourrait transformer World of Warcraft en... C'est dans l'univers c'est dans l'univers créé par Blizzard, papa.
L'autre possibilité, c'est de faire de nouvelles licences qui sont spécialisées pour ce genre de jeu.
C'est beaucoup plus risqué. Créer une licence, c'est beaucoup plus coûteux.
C'est beaucoup plus risqué et coûteux. Surtout que là, en plus, comme ça vient de sortir et tout, si on refait une nouvelle licence maintenant, ça va pas du tout marcher.
Il nous reste 5 minutes, on va passer la parole au public pour quelques questions.
Moi, j'avais une question qui rejoint vraiment le concept de réalité augmentée. Parce que la réalité augmentée, c'est quelque chose dont on parle quand même depuis assez longtemps. Et c'est arrivé vraiment dans nos vies avec Pokémon Go, en tout cas pour les non-initiés. Et je me demandais, du point de vue vraiment de l'entreprise, dont le but, c'est de créer de la consommation pour pouvoir continuer d'exister. Est-ce que c'est quelque chose qui a été constaté du point de vue des joueurs, ce besoin d'avoir vraiment la réalité augmentée pour... disons pour les encourager à acheter pour consommer ce jeu, ou est-ce que c'est quelque chose où on s'est dit allez on va le lancer parce que pour l'instant le joueur ne peut pas nous dire que c'est ce dont il a envie, mais nous on anticipe que c'est un truc qui a vraiment un potentiel très fort. Est-ce que c'est un besoin qui vient du consommateur, ou est-ce que c'est les entreprises qui ont réussi à anticiper que c'est quelque chose qu'on adorerait avoir dans notre vie même si on le sait pas encore?
Je sais pas. Je crois que, enfin, de toute façon, il y a eu Ingress en jeu comme ça, GPS et tout. Sûrement qu'avec Ingress, ça a dû un peu marcher pour qu'il y ait des joueurs qui disent ah c'est vachement cool. Et du coup, comme c'est la même société, ils ont pris ce qu'ils avaient fait de bien avec Ingress. Ils en ont refait un nouveau jeu, Pokémon Go, qui cette fois-ci a mieux marché vu qu'il y avait déjà eu Ingress pour prototyper entre guillemets. Mais je sais pas si les joueurs, moi je connaissais, j'avais jamais entendu parler de ce concept de GPS et tout avant Pokémon Go. Personnellement, alors que je suis en plus dans l'industrie encore en étudiant, mais c'est pas quelque chose qu'on connaissait avant. Et j'ai l'impression que c'est la même chose pour la réalité virtuelle. Pour l'instant, la réalité virtuelle, les gens ne sont pas forcément au courant. Pourtant, dans l'industrie, tout le monde parle que de ça, et ça va arriver l'année prochaine, et on verra bien l'année prochaine si les joueurs et les gens en général vont adopter cette technologie ou s'ils vont pas du tout aimer, et pour l'instant, on ne sait pas. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt l'industrie qui va amener une nouvelle technologie en disant est-ce que ça va marcher ou pas, et on verra bien.
Alors justement, je joue à Pokémon Go, hein, je suis niveau 25, mais avant j'ai joué au jeu précédent de Niantic qui s'appelle Ingress. Alors là je peux peut-être en parler un peu pour montrer justement comment ça marchait, ou comment ça marche toujours, parce que c'est un jeu qui a eu beaucoup moins de succès évidemment que Pokémon Go, là, qui est absolument énorme, mais qui a quand même plusieurs millions de téléchargements, et puis des joueurs actifs encore, ça augmente encore toujours. Et le principe, c'est un principe, le contexte, c'est un concept de, vraiment de science-fiction. Il y a une matière exotique qui arrive sur Terre, et les joueurs essayent de la contrôler. Il y a deux factions, il y a les éclairés qui veulent améliorer l'humanité avec cette matière exotique, et les résistants qui veulent protéger l'humanité des effets négatifs de cette matière exotique. Et le jeu, par rapport à la réalité augmentée et la géolocalisation, est assez stratégique dans le sens où on tire des liens entre les portails, donc les portails qu'on a créés en les proposant au fur et à mesure. Quand on a tiré trois liens en triangle, ça contrôle la zone en dessous de ce triangle-là, ça va faire un champ. Et alors les champs, ils peuvent être très raisonnables, genre là par ici, il doit y avoir un petit champ de quelques centaines de mètres de largeur, mais on peut faire aussi des champs au-dessus de toute une ville, ou même entre les pays.
Du coup, il y a une sorte de contrôle de territoire par rapport aux deux factions.
Oui, c'est ça. C'est un contrôle de territoire, un peu comme un go planétaire, où on essaye de contrôler le maximum le territoire. Ouais. Et ça oblige les joueurs à jouer beaucoup plus en communauté, à communiquer même entre pays, entre joueurs de la même endroit. Et là où la géolocalisation est vraiment, on joue vraiment avec le monde dans Ingress, c'est, je vais donner un exemple. Il y a des portails sur le bord de la mer, par exemple, il y a un rocher près de Trégastel qui s'appelle le D, qui est un portail assez loin et qui est accessible uniquement à marée basse. Donc à marée basse, on peut aller là-bas, on peut capturer le portail et tirer un lien très stratégique, voire même un champ. Au-dessus de la Manche, parce que souvent dans la Manche, comme il n'y a pas de portail, c'est facile de tirer un lien, c'est l'espace est dégagé. Et ensuite, le temps que l'adversaire se rende compte qu'il y a ce lien qui l'embête, ou ce champ qui va recouvrir peut-être des centaines de kilomètres, et ben, il va arriver, la marée sera haute, il ne pourra pas accéder à ce portail-là. Donc, avec Ingress, on est obligé de tenir compte du monde réel, de se dire, tiens, pour aller à tel endroit, il me faudra une heure. Ici, le parc va être fermé à partir de 10 heures, donc je ne pourrais plus y aller. Donc on joue vraiment avec le
du
monde
coup,
réel.
Du coup, c'est un très bon exemple de bonne utilisation de la géolocalisation dans le jeu. Mais comme c'est plus compliqué, ça touche un public plus restreint. Mais voilà. Le jeu en lui-même a l'air d'être plus intéressant même que Pokémon Go.
Oui, alors c'est un jeu très intéressant. Je pense que les joueurs y restent peut-être plus longtemps. Beaucoup de joueurs d'Ingress sont passés, ont essayé Pokémon Go. Certains ont beaucoup joué. J'ai beaucoup d'amis qui ont tout trouvé. Là, j'en ai quelques-uns, deux, trois.
Voilà, on est dans un public bien plus hardcore.
Voilà,
du coup,
c'est des joueurs très, très aguerris. Par contre, il y a moyen aussi de jouer de façon beaucoup plus raisonnable, disons. On n'est pas obligé de jouer des heures tous les jours. Bon, c'est un peu aussi comme dans Pokémon Go. Suivant les joueurs, on joue à Ingress, on cherche soit à contrôler son quartier, soit à faire des champs au-dessus de l'Angleterre, où il y a tous les modes intermédiaires. En fait, il y a énormément de façons de jouer à Ingress, parce que rien ne nous dit exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner. C'est à chacun de décider de son but. Il y a souvent aussi ce qu'ils appellent les anomalies, des rencontres qui sont faites dans une ville à un certain moment. Donc là, il y a des milliers de joueurs qui se retrouvent par exemple, il y a Rome bientôt. Donc beaucoup de joueurs vont se retrouver à Rome pour jouer Ingress en même temps. Voilà.
Oui.
Bonjour. Il y a certains maires qui ont interdit le jeu de Pokémon Go. Je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un réel danger après ce jeu ?
Il y a un pays qui a...
Il y a certains maires dont...
Des villes de France,
ils ont interdit le Pokémon Go.
Oui.
Je voudrais savoir s'il y a un réel danger...
Je pense pas qu'il y a un réel danger avec Pokémon Go. À moins de... Enfin,
si, le danger, en fait, dans ce village, c'est vraiment un village, c'était en gros, le danger, c'est qu'il y a des tas de gens qui vont... En fait, c'était parce que c'est la peur d'avoir une invasion de joueurs et que ça fait du bruit et que, du coup, dans un village calme, avec des tas de gens qui sont habitués à du calme, où il n'y a pas de bruit, d'un coup, oh mon Dieu, il y a de la vie. Oh mon Dieu, il y a des gens. C'est-à-dire que les mêmes qui vont condamner les joueurs qui sont cloîtrés chez eux, devant leur écran, etc., tout d'un coup, ah mon Dieu, ces enfants qui étaient devant leur écran, qui ne bougeaient pas, tout d'un coup, oh mon Dieu, ils sortent de chez eux, ils vont dans la campagne. Oh mon Dieu, ils vont dans la campagne. C'est monstrueux, on voit des jeunes chez nous. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je l'interprète. C'est-à-dire que vraiment, on voit ça. Donc, C'est pas un danger. Oui, parce que si, il y a eu des cas de danger. Enfin, il y a eu des cas. C'était aux États-Unis, par exemple. Donc les Pokéstop, il y a des leurres. On peut mettre des leurres pour attirer. Mais on attire donc les joueurs. Et donc ça, c'était aux États-Unis. Il y a des gens qui ont profité pour dévaliser les joueurs, prendre leur argent, leur téléphone, etc. Donc ça, c'est arrivé.
Ça, c'est pas la faute du jeu. C'est la faute des joueurs, encore une fois. Ou des personnes.
Oui, ça serait autre chose, c'est pareil, hein, c'est pas. C'est...
D'accord. Oui, évidemment, il y a aussi des problèmes avec le genre de. Parfois, il y a des Pokémon qui vont apparaître sur des rails de train ou sur la route, sur
oui,
la route, etc.
Ou ceux qui jouent en conduisant.
Enfin, encore une fois, c'est la faute du joueur.
Je rappelle qu'on n'a pas le droit d'avoir le téléphone en conduisant de
voilà,
toute manière, donc qui est Pokémon ou pas. Hein, donc,
on
n'est pas censé aller sur l'autoroute non plus.
Niantic met quand même des rappels de sécurité qu'on a.
Et d'ailleurs, ouais, tout à fait. Quand on allume Pokémon Go, il y a toujours marqué ne jouez pas à Pokémon Go en conduisant. Puis quand on a un GPS qui est pas très bon parce qu'on a un téléphone qui est pas très haut de gamme, et ben ça nous dit vous allez trop vite, je suis pas en train de bouger, et c'est bugué. Enfin bon, et du coup, ouais, y a ce côté danger qui est en fait du faux. C'est juste pour...
Ça existe, mais c'est dans des proportions tellement faibles. C'est comme toujours les dangers du jeu vidéo, le danger des joueurs qui deviennent agressifs ou autres. C'est tellement une frange que, petite et qui, souvent avec des fragilités psychologiques qui sont augmentées par le jeu, mais qui existaient, donc qui auraient été autre chose. Donc c'est pour ça que je ne suis pas... voilà, le danger du jeu vidéo. Les très grande majorité des joueurs savent faire la différence entre le jeu et la réalité, il n'y a pas de problème.
Tout à fait.
On va prendre une dernière question.
Bonjour. Alors, j'ai pas suivi toute la conférence, mais je me posais la question de savoir comment fonctionnaient les algorithmes et l'apparition des Pokémon voilà, dans les villes. Où...
Alors, du coup, les Pokémon, on ne sait pas vraiment en fait, parce que c'est le code, c'est Niantic qui l'a écrit, c'est Niantic qui le possède. Il y a aucun moyen de l'avoir, sauf en craquant le jeu, mais même ça se fait pas, ça se fait plus. On peut pas savoir comment les algos sont écrits. On peut pas savoir comment apparaissent les Pokémon.
Et est-ce qu'on sait s'il y a un lien entre les applications sur les smartphones? La concentration de personnes qui peuvent avoir cette application et du coup l'apparition des Pokémon.
Alors c'est sûr qu'ils doivent sûrement avoir un système d'optimisation où ils font apparaître les Pokémon que autour des gens qui sont en train de jouer. Évidemment ils vont pas faire apparaître des Pokémon au milieu du Sahara s'il y a personne, parce que ça demande de la ressource serveur qui serait pas utile. Mais après clairement comment le... Oui, c'est aussi l'expérience d'Ingress. Dans Ingress ils posaient les Pokéstop et autres monuments. Qui sont ensuite réutilisés dans Pokémon Go, ce qui fait que quand on se balade à Paris, il n'y a aucun problème pour avoir des Pokémon. Quand on se balade dans un petit village au plein milieu de la France, c'est un peu plus difficile de trouver des Pokémon parce qu'il y avait eu moins de joueurs avant. Donc ça se fait aussi par mais ça c'est des indices qu'on a par rapport parce qu'on les devine, mais techniquement le code derrière, on n'a aucune idée de comment il est écrit.
On va mettre un terme à cette sympathique conférence sur Pokémon Go. On vous remercie d'être venu et on va vous souhaiter une bonne fin de festival.